Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
On va se faire du bien à travers la parole, et particulièrement pour ceux qui se sentent mal. Ah oui. Vous savez que la Bible, l'Évangile surtout, c'est vraiment une parole de bien. On l'appelle la bonne nouvelle, parce qu'elle est toujours nouvelle et elle est toujours bonne. On a tous besoin de consolation, et on a tous besoin d'espérance. Et c'est de cela ce que j'aurais à vous dire. Parce qu'il y a des bons moments dans la vie, et il y en a qui sont plus difficiles, où quelquefois, eh bien, nous sommes touchés par l'affliction et on se demande si véritablement on va s'en sortir. Et oui, il faut aller jusqu'au bout, mais dans de bonnes conditions. Parce qu'il y en a qui vont jusqu'au bout, mais quelquefois la vie n'est pas simple, elle n'est pas facile, elle est jalonnée de toutes sortes de peines, toutes sortes de difficultés. On va étudier, c'est plutôt un commentaire, c'est une étude si vous voulez, hein, parce que c'est un petit peu mon domaine à moi. Hein. Il y en a qui sont évangélistes, d'autres qui sont, eh bien là, apôtres, docteurs, mais moi je suis un simple et modeste petit pasteur. Voilà. Et ça vous fait sourire, mais c'est vrai, pourtant la vérité. J'ai très peu d'expérience d'abord. Alors, je vous propose que nous lisions dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, et ça va nous servir finalement eh bien, d'introduction pour cadrer notre propos. Alors, évangile de Luc, chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 24, ça ne va pas être très long, c'est simplement deux versets, qui nous rappellent ceci. C'est Jésus qui s'adresse à ses auditeurs. « Or, afin que vous sachiez que moi, le Christ, c'est-à-dire que le Fils de l'homme, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dira-t-il, tout simplement à un homme paralysé. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et les choses se réalisent, finalement, eh bien, animées par l'énergie de la foi. Parce qu'il a foi, ce pauvre homme qui est là à traîner dans sa misère, gravataire, qui n'est pas comme tout le monde, et qui certainement eh bien, voudrait que sa vie soit autrement. Et il nous est simplement rappelé, et à l'instant, cet homme se leva en leur présence devant tout le monde, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Ouais, quand ça se termine comme ça, c'est que c'est formidable, il s'est passé quelque chose. On a tous envie de glorifier Dieu, mais quelquefois nous sommes retenus par les contingences de la terre à travers nos douleurs, nos souffrances, et on voudrait que ça soit autrement. On espère que ça soit autrement, mais on est collé finalement à cette maudite terre. Et il nous est donné la suite, tout simplement. Tous les hommes étaient dans l'étonnement. Tous ceux qui étaient présents, tous ceux qui ont été des témoins eh bien, de ce qui s'est passé. Ils étaient dans l'étonnement et ils glorifiaient Dieu aussi, vous rendez compte? Comme c'est communicatif tout ça, hein? Un miracle c'est communicatif. Hein? Remplis de crainte, parce que le pauvre homme qui s'est mis à marcher, lui, il n'était pas rempli de crainte, il était rempli de foi. Mais les autres, c'était partagé cette histoire, émerveillés de ce qu'ils avaient vu, mais d'un autre côté, ils se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et leur crainte, elle était liée parce qu'ils ne comprenaient pas. Et moi, je voudrais vous dire encore et le dire et encore, c'est que, eh bien, la foi, c'est quelque chose qui nous dynamise. C'est quelque chose qui nous amène à Dieu, à le louer, à le remercier, à l'identifier comme notre libérateur. Amen. Alors, il glorifiait Dieu, rempli de crainte, il se disait les uns les autres, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires, des choses étranges. Ils ne comprennent toujours pas, elles sont étranges, et pourtant elles sont surnaturelles. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que vous voulez voir des choses extraordinaires, surnaturelles, des prodiges de Dieu?
Amen.
Bon, on va voir la suite. Alors, vous avez remarqué avec moi, il y a trois expressions, « lève-toi, prends ton lit et va ». Et ensuite, le correspondant, il se leva, il prit son lit et s'en alla. Alors, je voudrais donner un titre à notre méditation ce matin, c'est « tomber, se relever et toujours avancer ». Parce qu'on peut tomber et rester par terre. On est peut-être dans des efforts surhumains pour se relever. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce que ça nous permet de faire, puisque cet homme était paralytique, il va retrouver l'usage de ses jambes, il va avancer. Ah oui, c'était fait pour ça. Hein? L'aveugle, lui, va voir, il va découvrir un monde qu'il n'a jamais vu, si c'est un aveugle de naissance, mais lui, il va marcher. Donc, retenez bien ces trois mots. Tomber, se relever et toujours avancer. On va donner je voudrais donner l'explication parce que moi quand je prêche, je veux pas être trop doctrinal, mais je veux donner le sens dans notre langage, dans notre français, l'explication, pourquoi tel mot, ça signifie ceci, ça signifie cela, et vous allez comprendre de nature, hein, parce que finalement, voilà, c'est ça. Sens et signification des mots. Il y a trois états devant nous, tomber, se relever et avancer, qui correspondent à des situations qui sont souvent bien négatives. Des positions, ah oui, le pauvre homme, il était assis, ou il était assis, ou il était couché, peut-être, hein, position. Il pouvait bien faire tous ses efforts, mais ça ne changeait pas grand-chose. Ça dépend des circonstances dans lesquelles nous sommes. Je ne parle pas, je sors un peu du cadre du paralytique, de la maladie, mais quelquefois il y a des circonstances qui font que nous sommes enfermés. Comme en prison, vous savez. On entend parler de la prison en ce moment-là. Alors, je voudrais simplement vous dire, pour vous rassurer, je ne me présente pas en 2027. Ah bah oui. Oui, bon, d'accord, vous avez compris. Il y a des contextes qui font que même les chrétiens, eh bien, sont pris dans des réduits où, finalement, leur liberté, et de là, la liberté, il n'y a plus la joie, il n'y a plus la paix, etc. Ce sont des circonstances difficiles. C'est le malheur, quelque part. Et on est bien obligé de le vivre, de le supporter, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Ce sont des états de choses. Ce sont des faits qui sont peut-être de notre propre responsabilité, parce qu'on s'est mis nous-mêmes dans une mauvaise passe, ou alors ça peut venir aussi des gens qui nous en veulent, qui sont méchants avec nous et qui nous ont réduits à cet état. Ce sont les conditions, tout ça. Alors on va prendre le premier thème, tomber. Je citerai, parce que c'est quelque chose qui est bien connu, et ça a été mémorisé à travers tous les temps et toutes les générations et tous les siècles, tomber. Moi ça me fait penser, tomber, le mot tomber me fait penser à David. Et pourtant, c'était un homme de Dieu. Pas n'importe qui, David, qui était l'ami de Dieu, qui servait Dieu, qui véritablement a donné une grande partie, finalement, de toute sa vie, de tout son cœur pour Dieu. Et il est tombé avec un problème qui était, peut-être il s'ennuyait, mais la convoitise. Vous savez ce que c'est que la convoitise? C'est désirer une chose qu'on n'a pas et de vouloir à tout prix l'avoir, quels que soient les moyens. Quelle que soit la manière dont on va se l'approprier. Alors, il y a des choses, c'est bien, c'est bon. Mais il y a des choses, comme David, il va mettre finalement là les pieds où il ne faut pas. Hein. Parce que lui, il n'était pas paralytique, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Et ça va l'entraîner à la chute. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire, parce qu'il y en a des pages et des pages sur David. Hein. C'est très intéressant. Et on peut dire qu'il a été entraîné à terre, lui. Ouais, il était sur le sommet de sa maison. Et puis à un moment donné, il a vu, voilà, une belle créature hein, qui s'appelait Bathsheba. Et il s'est dit, mais elle est pas mal cette femme, hein, c'est ça. Et lui, il en avait déjà au moins 7. Alors, bon, enfin, je ne veux pas vous choquer, mais il y en a un, son fils, lui, il en avait 7 à 800. Ça va? Et je ne raconte pas des histoires. Hein. J'y étais pas, mais quand même. J'ai lu la Bible. Alors, il était entraîné à une chute. Il est tombé par terre, lamentablement. Il était roi, il était sur un trône, il était en hauteur, il était le premier. Et il est tombé, misérablement, à terre. Il a fait une chute. Il a perdu son équilibre moral, parce que c'était un homme qui avait véritablement eh bien, quelque chose d'excellent sur le plan moral. Il aimait Dieu, il aimait le bien, il aimait véritablement eh bien, les bonnes choses. Oui, sur le plan moral, toujours. Il a perdu son équilibre. Ouais, c'est pas évident, hein. Vous savez, quelquefois, nous, en tant que bergers de troupeaux, quelquefois, on voit des frères et des sœurs qui perdent leur équilibre, hein. Qu'est-ce qui se passe? Et qui ont pu être véritablement, eh bien, en quelque sorte, des hommes remarquables. C'est le cas. Et nous nous apercevons qu'un temps, il va être déchu, parce que ce peuple qui, tout en le cachant, son péché, sa faute, tout, ça s'était répandu. Hein. On sentait que David n'était plus le même. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Il ne louait plus dans le temple, il ne chantait plus les cantiques à Dieu. Il sentait qu'il y avait une tristesse, parce que vous savez, le mal, ça nous rend malheureux. Ça nous rend tristes. Ça nous appauvrit. Hein. Et il avait été séduit, tout simplement, par ses goûts, des goûts qui étaient sortis un petit peu de ce qu'il fallait être. Donc ça s'est tombé, c'est la convoitise de David. Tomber, se relever. Parce qu'on peut rester par terre. Moi, j'ai connu, malheureusement, et on peut encore en être profondément attristé en 40 ans de ministère, dans plusieurs églises, on a connu des frères qui tombent. Mais alors, qui tombent mal. J'allais dire bien, parce que ça va pas ensemble. Mais qui tombent, et qui ne se relèvent pas, qui ne peuvent pas se relever. Ils sont devenus, ils se sont mis en prison eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui en est parlé, ou on en parle finalement, c'est la femme courbée depuis 18 ans. Alors c'est pas du tout la même chose, pauvre femme. 18 ans de paralysie, elle était courbée, je pense que tout le monde devait lui avoir donné un surnom, la bossue. Elle était comme ça. Et elle ne pouvait pas voir le ciel, elle était toujours en train de voir la terre parce qu'elle n'avait pas le choix, elle ne pouvait pas se relever. Regardez le plafond. Ça va? Bon, c'est bien. Vous pouvez regarder les deux, hein, le ciel et la terre. Mais elle ne pouvait pas. Et ça la réduisait à un état de misère. C'est cette femme courbée qui ne peut pas se relever. C'est marqué dans le texte. Oui, vous le retrouverez, vous le relirez. Et c'est difficile de se remettre debout lorsqu'on est coincé comme ça, hein. Il y a des choses qui nous enserrent, il y a des situations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient conjugales, qu'elles soient d'une manière ou d'une autre professionnelle, économique, où on ne peut pas se relever. On est tenu. Et ça, c'était, on pourrait dire entre guillemets, mais je vais vous donner la raison, entre une forme naturelle de... Voilà, c'est comme ça. Elle ne pouvait pas se redresser, tout simplement. Vous savez, l'histoire de l'humanité, elle est faite comme ça. À la sortie du jardin d'Éden, on est tombé. Ouais, on est tombé. Et on est tombé par la convoitise. Je reprends un petit peu, là, voilà, parce que, ah, si tu me... Voilà, hein, ne crois pas à ton Dieu qui t'a créé, parce que finalement, moi, je suis capable de te donner tout ce que tu as besoin, vous serez comme des dieux, hein, vous ne mourrez pas, etc. Ça, c'est la convoitise, hein, c'est terrible. Hein. C'est le doute mortel, finalement, la suggestion de l'âme humaine pour se détourner, et se détourner de Dieu, naturellement. Mais vous savez, il y a derrière... ce mot ou ces mots, se remettre debout, se redresser, il y a quelque chose qui apparaît dans l'évangile, c'est le mot renaître. C'est toute la doctrine de Jésus. Hein. Jésus voit la foule et il voit que finalement, il n'y a pas d'autre remède que de vivre une nouvelle vie. Parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Et pour aspirer au ciel, il faut pouvoir regarder le ciel. Mais il faut d'abord que le ciel vienne rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu sur la terre pour rentrer dans le royaume des cieux, là-haut. Alors, naturellement, eh bien, se redresser, c'est renaître. C'est se ressaisir, c'est prendre conscience, finalement, eh bien, qu'on n'est pas bien, il y a des gens qui se suffisent avec leur misère. Ils ne sont pas heureux, mais ils disent, mais pourquoi changer c'est comme ça, et puis c'est tout. Non, il ne faut pas admettre, il ne faut pas accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Moi, je parle pour certains, peut-être vous êtes en train de discuter avec vous-même, et vous dites dans votre conscience, oui, mais se ressaisir, c'est se rétablir. C'est faire un effort, c'est pas l'effort de guérir, vous ne guérirez jamais vous-même. Mais c'est de faire l'effort de vouloir guérir. C'est une stimulation, finalement, de dire, mais je ne veux pas rester comme ça. Il y en a qui se battent. Puis, finalement, eh bien, sans y arriver, ils se battent toute leur vie. Mais quand on est à suivre Jésus, c'est lui qui va nous donner, parce qu'il a payé le prix. C'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Guéris moralement, guéris physiquement, guéris spirituellement. Ouais. Faire l'effort, et c'est un acte de volonté. Nous avons besoin d'une comment pourrait-on dire, vous savez, comme les... de remise à jour. Ouais. Et la remise à jour, c'est véritablement s'abandonner entre les mains de Dieu. Seigneur, je ne peux rien, je ne suis rien, mais c'est toi qui vas tout faire pour moi. C'est toi qui vas le faire à ma place. Eh oui, ça c'est, il faut le comprendre. Seigneur, donne-moi de comprendre ta pensée. Donne-moi de recevoir tes idées géniales. Nous, on l'a souvent fait, hein. Et on a dit, Seigneur, on n'aurait jamais été capable de comprendre. On n'aurait jamais été capable de, véritablement, eh bien, rentrer dans les dimensions que tu voulais nous faire rentrer. Et pourtant, tu nous as attendu longtemps. Et peut-être vous le dire ce matin, si vous comprenez un petit peu le langage qui est donné, c'est pas le langage de l'homme, parce que je parle français, vous comprenez le français, mais le langage spirituel des choses. Alors à ce moment-là, eh bien, vous allez dire, Seigneur, viens, aide-moi à comprendre, donne-moi ce chemin, montre-moi ce chemin, et je vais l'emprunter. C'est un acte de volonté. C'est pas de rester comme ça, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Acte de volonté et conscience d'être, oui. Je suis malheureux, je ne veux pas rester malheureux. C'est facile à dire comme ça, hein. Mais maintenant, il faut après que nous ayons notre accompagnateur. Et l'accompagnateur que Dieu nous a donné, c'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. Et il n'est pas seulement avec vous pour vous accompagner sur le chemin. Il est en vous. Vous êtes le temple de l'Esprit. Votre corps est le temple de l'Esprit. Ne cherchez pas Jésus ici, à droite, à gauche, où vous voudrez. Mais cherchez Jésus à l'intérieur de votre cœur. Il y est. C'est le temple. Bon, c'est des choses de rappel. Il y a dans ce relevé aussi un autre, parce que je vous ai parlé de David, je vous ai parlé de la femme courbée, je voudrais vous parler des disciples d'Emmaüs. Ah, les garçons, ils avaient fait une formidable expérience pendant 3 ans, pour la plupart, les 12. Ah ouais, ils avaient vu des miracles. Ils avaient mangé du pain miraculeux. Ils avaient vu des morts ressuscités. Ils avaient vu des aveugles voir, des boiteux marcher et à foison, nous pourrions dire. Puis à un moment donné, il y a eu une rupture. Ah oui, ça faisait partie du plan de Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Ben oui, mais... Et ils sont tombés dans un état de découragement et de déception terrible. Où est Jésus maintenant, celui qui nous a appelés? Celui qui nous a montré, celui qui nous a doté, parce qu'ils ont reçu des dons aussi. Il y a eu des choses extraordinaires faites, non pas seulement par Jésus, mais sous le mandat de Jésus. Et d'un seul coup, il n'y a plus rien du tout. Oui, il n'y a plus rien parce qu'on a tué Jésus. On l'a mis à mort. Alors qu'est-ce que l'on peut faire devant la mort? Il n'y a plus rien à faire. Humainement parlant, il n'y a rien à faire. Alors ils ont été découragés. Ils étaient pitoyablement à marcher sur le chemin de... Comment c'est Emmaüs, voilà. Hein. C'est le chemin d'Emmaüs, hein, c'est ça. On l'appelle les disciples d'Emmaüs. Voilà, c'est sur là. Bon, peu importe. Et nous voyons qu'ils passaient leur temps à ressasser. Vous savez ce que c'est ressasser? Quand la folle du logis tourne dans votre tête, jour et nuit, c'est un plaisir extraordinaire. Ça vous arrive? Oui, il y a des fois, ça me tient la tête, hein. ça me prend la tête. Je le dis avec une expression. Voilà. Mais c'est pas marrant. Hein. Vous avez un souci de ce... Et vous n'arrivez pas à dormir. Vous n'arrivez pas à vous reposer. Alors il y a des choses, c'est vrai qu'elles ne sont pas très agréables. Puis il y a des choses, on en fait toute une marmite. Hein. Enfin, bon, je ne vais pas vous donner des recettes de cuisine, c'est pas jour. Mais toujours est-il que, quelque part, faut savoir aussi doser les choses. Il y a des choses qui sont graves, qui méritent que, véritablement, nous nous tenions devant Dieu, que nous le prions pour qu'il nous délivre. Et puis il y a des choses, le Seigneur dit, mais tu peux te débrouiller tout seul, tu sais le faire. Ouais. Alors c'est vrai que, vous savez, nous on a une spécialité, hein, nous les hommes, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On se tient la tête, hein. Quelquefois on s'en met, c'est vraiment difficile. Alors, ils étaient découragés et ils ressassaient continuellement ces choses et ils s'étaient intoxiqués de doute, parce que plus on va, non pas vers la foi mais vers le doute, plus le doute prend des proportions. De ceci, de cela, etc., ce qu'on écoute des autres, parce qu'il y en a certains, ce n'est pas forcément les bons conseils. Et ça paralyse notre pensée, et nous devenons finalement accros avec notre pensée, nous ne pouvons pas nous en délivrer. Nous sommes obsédés par notre pensée. Ça, c'est de la pollution, hein, c'est du poison, hein, je peux vous le dire. Hein. Et nous devenons tristes. C'est quelquefois difficile de voir des frères et des sœurs que nous connaissons, que nous aimons, et qui sont renfermés dans une tristesse. Mais où est la joie, finalement, d'être à Jésus? Où est la joie que vous portez au témoignage si vous êtes triste? Ah, vous savez, la vie chrétienne, c'est terrible. Surtout, hein, n'allez pas trop loin, hein, parce que vous allez voir, c'est pas rigolo. Hein. Alors, si vous donnez ce genre de conseils, les gens, ils vont pas en vouloir. Hein. Vous savez, c'est la joie, elle est capable de changer des vies. Hein. Ouais. Et puis ça passe par le sourire, ça passe par toutes sortes de choses. Et la tristesse devient prison dans notre esprit, alors que la foi éclaire notre intelligence. Il y a des pensées qui viennent quelquefois. Il y a des textes, des versets dans la Bible qui nous éclairent. Des versets qu'on avait oubliés depuis longtemps. On les retrouve, on dit, ben, c'est ça ce qu'il me faut. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça fait du bien. Ça nous rafraîchit naturellement, hein. Surtout quand notre passé a été douloureux et que là, nous commençons à entrevoir qu'il y a quelque chose de positif. C'est traumatisant, tout cela, parce que souvent, c'est mélangé avec de la confiance qui est trompée, une espérance non réalisée. Ah ben oui, mais j'attends depuis voilà, tant d'années. Et ça finit par l'accablement, ça finit par l'épuisement et un sentiment d'abandon, même de Dieu. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu fais plus rien? Tu m'as oublié? Alors que Dieu n'oublie jamais personne. C'est ça la positivité. Et nous vivons des temps exceptionnels en ce moment où tout le monde est positif. Ah ouais! Si vous avez l'occasion de faire un petit peu d'écoute de la politique, vous verrez que c'est sensationnel. Bon, il y a peut-être des réalités, hein, ça c'est sûr. Mais on s'aperçoit que nous sommes, et nous ne sommes pas les seuls, nous les Français, mais il y a véritablement eh bien, tout un roulis, vous savez, comme les flots de la mer, qui nous emportent, qui nous emportent, qui nous emportent. Et plus ça va, plus nous sommes négatifs. Ouais, et c'est dommage, hein, parce qu'on ne peut pas se faire de bien, de toute façon, dans tout ça. Continuez à croire. Tomber, c'est vrai. Se relever, c'est une grâce de Dieu, parce que c'est lui qui va nous donner la force pour toujours avancer. Et ça s'appelle repartir, ça. Ça s'appelle repartir. Repartir. On connaît bien notre ami Bartimée, mendiant aveugle depuis je ne sais combien de lustres, et il était aveugle, et quand il est finalement, quand il a rencontré Jésus, il était voyant. Pas voyant au niveau occulte, hein, pas du tout. Hein. Mais il a recouvré finalement la vue. Et qu'est-ce qu'il va faire pour la première chose? Parce que il était parti pour avancer. Un aveugle n'avance pas. Il tâtonne, il trébuche, voilà. Mais lui, il va suivre Jésus dans le chemin. Quand vous regardez le texte de Marc, il les dit qu'il a vu, il a été véritablement transformé et changé. Et il y a une petite phrase sibylline qui nous dit « Et il suivit ensuite Jésus dans le chemin ». Qu'est-ce que c'est suivre Jésus? C'est pas marcher devant Jésus, c'est marcher derrière Jésus pour le suivre. C'est pas la conversion, ça? Parce qu'il y a eu un miracle, parce qu'il y a eu quelque chose qui l'a bouleversé. Et ça, c'est formidable. Pour lui aussi, comme la femme qui s'est redressée, là, comme on en parlait tout à l'heure, eh bien, il a fait l'expérience d'une vie nouvelle, d'une renaissance qui conduit à une régénération de notre être entier, pas de notre vie physique, peut-être, pour des guérisons physiques, mais à l'intérieur de nous-mêmes. L'homme est malade à l'intérieur, il est malade dans son âme, il est chahuté dans sa conscience, culpabilité, puis toutes sortes de choses. Et là, nous avons besoin d'être guéris physiquement, nous avons besoin d'être guéris psychologiquement et moralement, et nous avons, eh bien, justement, cette possibilité d'être renouvelés dans l'esprit notre vie spirituelle, qui, elle, eh bien, va remettre en place. Parce que si vous mettez la terre en premier, ensuite l'âme humaine, invisible naturellement, mais vivante, et que si vous mettez l'esprit en haut, eh bien, c'est l'esprit qui va prendre ascendance sur votre âme et qui va prendre ascendance sur votre cœur. Et c'est là où vous allez retrouver la bonne santé. C'est la pyramide à l'envers. Oui. C'est pas la petite pointe en haut. Et puis avec véritablement l'empattement de la pyramide sur des centaines ou des dizaines et dizaines de mètres. Non, il faut la mettre à l'envers. Ouais. Et ça change les choses. Ça nous transporte vers le haut. Alors il faut recommencer. Oui, peut-être certains recommencent tardivement, mais il n'est jamais trop tard. Parce que vous dites, mais j'ai vécu une vie de souffrance, toutes sortes de choses. Ben, j'irai jusqu'au bout. Non, ne dites pas ça. Le Seigneur est capable de me donner une nouvelle vie. Amen. Eh oui, on a vu. Vous savez, on a suivi des dizaines et voire des centaines de personnes dans notre ministère pastoral. Et on a baptisé quelquefois des vieux monsieur, des vieilles dames qui sont baptisées à 95 ans. Et jamais trop tard pour bien faire. Amen. Eh oui, c'est formidable. Hein. Nous, ça nous a réjouis. Hein. Parce que, je voudrais vous dire, pour les amis qui nous rejoignent, nous, on ne baptise pas les petits-enfants. Vous savez? Non, ça n'a pas l'air. Ah, mais si. On baptise que des adultes qui sont en âge de prendre une décision pour eux-mêmes. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas la religion. Mais à un moment donné, eh bien, ce sont des gens, des êtres humains, des créatures qui prennent la décision de suivre Jésus parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont appris, finalement, qu'un bébé, il ne peut pas choisir lui-même. Absolument. Alors, recommencer, c'est partir, c'est repartir, c'est aller de l'avant, mais c'est aller de l'avant pour toujours avancer, pour tout simplement, eh bien là, progresser, toujours devant. Il suivit Jésus dans le chemin, c'est Jésus qui marche, avec une détermination, eh bien d'évoluer, d'aller de progrès en progrès, c'est ça la vie spirituelle, c'est ce que l'apôtre Paul signera dans une de ses épines, marcher de progrès en progrès, et non pas en marche arrière. Il y a des gens qui rétrogradent, c'est comme ça qu'on les appelle, bien sûr, mais bon. C'est être souple, c'est être tout simplement, eh bien là, dans une condition de flexibilité entre les mains de Dieu. Vous savez, chacun d'entre nous, quelquefois, plus ou moins, mais on a des sacrés caractères. Ça vous fait sourire? Et moi, ça ne me fait pas rire. Des caractères qui sont du béton, qui sont du granit de Bretagne. Excusez-moi pour les Bretons. Je ne suis pas breton. Bon, ben voilà, il y en a qui sont soulagés. Mais bon, toujours est-il que c'est des petites pensées. Nous ne pouvons plus avancer parce que nous sommes coincés avec des vieilles habitudes que nous avons prises et que finalement, eh bien, ça devient quelque chose de machinal. C'est accepter, mes frères et sœurs, que Dieu nous change et que nous avons besoin de bouger, car, écoutez bien, sans changement, il ne peut y avoir de progression dans la vie spirituelle. Nous sommes en perpétuel mouvement. Amen. Mais oui, mais oui. Vous savez, déjà, on a changé, hein, même sur le plan physique. Hein. Ouais. Moi, quand je suis né, j'avais pas de barbe. J'avais pas de moustache. J'avais pas... Ouais, voilà, tout simplement. Puis avec le temps, ben, ça a changé. Si vous regardez les photos, là, quand on avait 20 ans, je ne vous les montrerai pas parce que... Bon, je ne voudrais pas vous donner du moins du mou à grinde par rapport à mon physique. Non, 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 continuez pas à discuter, hein, parce que là... Bon, qui c'est qui a bougé la chose? Ça doit être moi. C'est bête que moi, de toute façon. Alors, oui, vous voulez grandir spirituellement, parce que quand on entend les, louanges que vous avez manifestées là tout à l'heure, ben, on entend des belles prières, des belles actions de grâce. Alors donc, moi, je pars du principe que vous voulez changer. Oui. Mais ce n'est pas seulement en mots, c'est aussi vis-à-vis de tous ceux qui nous environnent. Et ça, c'est important. Alors, je vais aller un peu plus loin. Cette nécessaire transformation ouvre de formidables opportunités. C'est vrai. Mais attention. Mais elle présente certaines pertes auxquelles nous ne voulons pas renoncer dans nos habitudes si invalidantes. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, nous sommes d'accord pour avancer. Mais attention. Avancer, c'est partir en voyage sans bagage. C'est-à-dire que toute notre vie passée, eh bien, nous devons la laisser derrière nous. Que nous devons peut-être des petites habitudes, des petites manies, des petites choses. Alors, il y en a certains, c'est vraiment anodin. C'est pas grave, bon, on va pas en faire une marmite. Hein. Excusez-moi, la marmite, moi, ça me tient ce matin. Mais toujours est-il qu'une chose qui est certaine, c'est que c'est des choses qu'on a habituées, bon, selon notre éducation, selon ce que nos parents nous ont appris, enfin bon, tant moral ou autre chose. Mais par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus conséquentes, où là, nous ne voulons pas lâcher, sur le plan religieux, sur le plan de nos idées, quelquefois très hardies dans certains domaines. Alors en disant, oui, Seigneur, je veux bien dessus, mais moi, je ne change pas sur ce point-là, sur ce point-là. Et pourtant, ce sont des obstacles. Hein. Alors il faut peut-être quelquefois eh bien, consentir à, à laisser certaines choses que nous allons perdre, auxquelles, eh bien... nous tenons. Chaque changement produit forcément des pertes. Ben oui, quand vous changez de travail, ce que vous avez appris avant, ce que vous avez été avant dans telle entreprise, oui, si vous êtes boulanger et que vous montez en grade et que vous allez peut-être vous enviser d'être médecin, ça n'a plus rien à voir. Hein. Mais pas dire, j'ai pétri le pain. Maintenant, je vais faire de la musculation sur les champs. Allez, c'est pétrir aussi, hein. Alors attention, certaines pertes, donc, nous devons mettre certaines habitudes en disant, Seigneur, si c'est utile, si c'est pour ta gloire, d'accord, mais si c'est pas pour ta gloire, si c'est pour me vanter moi-même, c'est pas la peine. On peut les laisser, celles-là. Pourtant, nous avons du mal à comprendre. Chaque changement, donc, produit forcément des pertes. Le passé, souvent, qui nous obsède. Ah, c'était le bon temps quand j'avais 30 ans ou 20 ans ou des choses comme ça. Mais il y a des choses qui nous encombrent. Puis dans le passé, il n'y a pas que des bonnes choses. Ouais. Ouais, il n'y a pas que des bonnes choses. Des souvenirs sentimentaux. Ben oui, mais hein, voilà, les choses sont à oublier. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit ceci, on ne peut pas devenir tout en restant ce que l'on est. Avec ce que l'on est, on va peut-être s'en servir, on va peut-être grandir, mais il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas avancer. Parce que la vie est une dynamique, ouais. Elle est une dynamique qui nous libère d'une existence passive, latente, voire peut-être somnolente. Et moi, je pense à l'Église. Et je voudrais dire quelque chose. On est bien ici, hein. C'est vrai, là, l'Église, c'est sympa, hein, c'est une petite famille, etc., etc. Bon, il s'en est passé des choses depuis une vingtaine d'années qu'on a travaillé avec vous, hein. Ça c'est sûr, hein. Des hauts, des bas. Oui, il y avait des mères mortes, enfin, comprenez, des mères calmes, et puis il y a eu des ouragans, hein, aussi, au milieu de nous, c'est certain. Bon, on est arrivé là, naturellement. Mais vous savez, l'Église, elle a besoin de se refaire continuellement parce que le monde change autour de nous. On ne peut pas, je pense... Alors, la doctrine, elle ne bouge pas, elle est intangible. Mais les formes, c'est ça ce que je veux dire. Les formes de ceci, de cela, d'exprimer. Alors, il ne faut pas choquer les autres. Ah oui, on doit respecter les autres. Ben, s'ils veulent vivre comme ça, ils vivent comme ça. Et on doit... Parce que bon, quelquefois, il n'y a pas de mal du tout. Hein. Mais il faut se reprendre. Quelquefois, on ne peut pas vivre, on le dit avec Myriam, nous on est rentrés, on avait 20 ans dans le ministère, hein. Je peux vous dire que les mentalités des églises protestantes évangéliques, il y avait 40 ans maintenant plutôt, oui, plus, Ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous n'en voudriez peut-être pas. Parce qu'il y avait des choses qui étaient fort utiles, mais il y avait des choses qui étaient complètement inutiles, qui choquaient les autres. Ouais. Surtout les exigences, la loi. Aujourd'hui, moi, je me réjouis d'être rentré depuis des années, et je le prêche, dans une dispensation et dans un régime qui n'est plus la loi de l'Ancien Testament, mais la foi du Nouveau Testament qui nous donne la liberté. Sans choquer les autres. Ouais. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et aujourd'hui, vous avez un nouveau pasteur, vous connaissez ? C'est pas le roi David, hein ? Il n'est pas encore sur le trône. Mais il s'appelle David, votre actuel pasteur, parce qu'il est là. Mais j'ai l'impression que, bon, il en veut, hein. Moi, j'étais tranquille, pépère. Oh, oui, vous avez été tranquille avec moi, hein. Repos. Non, pas tout à fait. Mais bon, c'est pour dire qu'il faut s'habituer. Il faut s'habituer au changement. Surtout que quand véritablement vous avez des serviteurs des dieux ou des bergers qui restent dans la ligne de la vérité, le respect de la liberté des frères et des sœurs, et surtout dans cette affection qu'on appelle eh bien, la compassion et l'amour des uns et des autres, des frères et des sœurs. Alors, s'ils sont dans cette... Là, il n'y a pas de problème. Le Seigneur va diriger, et Dieu va pouvoir se servir de son Église, parce que ce sont des bonnes choses. Maintenant, quand on tombe sur le contraire, bon, bah, écoutez, il faut faire avec. Hein. C'est ce qu'on a fait, hein, d'ailleurs, un moment ou un autre. Alors, on ne peut pas devenir, tout en restant, eh bien là, ce que l'on est. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à des vies qui... parce que toutes les religions, je pense, y compris le protestantisme, le catholicisme et toutes les obédiences chrétiennes, je veux dire, hein. Aujourd'hui, quand on entend les gens de dire, bah, écoutez, moi je vais dans un temple ou je vais dans une église, mais c'est la mort, c'est triste, il n'y a plus rien, les gens ne chantent plus, ou c'est toujours les mêmes, et puis les prières, c'est toujours la même chose. Ben non, il faut que ça bouge, hein, tout ça. Hein. Et je pense que, je voudrais vous dire une petite annonce, hein, que vous avez peut-être rarement entendu, mais moi je voudrais vous dire que le mardi soir, il y a une réunion de prière à Redon. Vous ne saviez pas ? Eh bien, moi je vous le dis. Voilà. T'es content, Jean ? Eh oui, apprendre à élargir nos horizons et voir plus grand et plus loin. Seigneur, conduis-nous plus loin encore. Parce que c'est pas fini. Hein. Parce que quand on va arriver de l'autre côté, hein, c'est grand, c'est vaste, c'est immense. Excusez-moi, c'est infini. Je finis. Ah ben c'est bien parce que quelqu'un m'a dit Amen. Alors, mes frères et sœurs, il ne faut pas ressasser les vieilles habitudes et les routines. Il faut revivre toujours pour revivre toujours les mêmes expériences. Quand on a 20 ans, 30 ans, et on fait des expériences. Mais quand on a mon âge vénérable et canonique, eh bien, on a appris des choses et on a encore envie de vivre encore des choses. N'est-ce pas ? Les Amen sont quand même assez discrets. Bon, alors, j'insiste pas parce que je ne veux pas vous ennuyer. Il y a une dame que vous connaissez bien. Oh, elle est bien vieille maintenant. Elle s'appelle Madame Lotte. Oui, ça remonte à quelques mois. Bon. Elle était la femme de Monsieur Lotte. Oui, évidemment. Et il y a eu, sur Sodome et Gomorre, un jugement de Dieu parce que c'était des gens méchants. Des païens, des impies, enfin, il y avait toutes sortes de choses, c'était le crime, c'était enfin, ce que l'on voit aujourd'hui, parce que rien n'a changé. Hein. Rien n'a changé. Hein. Alors, son mari reçoit un message en disant « Fuis Sodome et Gomorre parce que je vais envoyer un jugement de feu ». Bon, la chose s'est passée. Il emmène sa femme, il commence finalement à faire un peu de trajet. Au bout d'un certain temps, elle regarde, Dieu lui avait dit « Tu ne regarderas pas en arrière ». Ne regarde pas, c'est ton passé maintenant, il est maudit. ton passé, eh bien, il va disparaître. Ne regarde surtout pas, parce que le moment où tu vas regarder en arrière, tu vas être transformé en statue de sel. Ça vous fait une belle salière, hein. Ça c'est sûr. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'à un moment donné... Allez... Non, je ne regarde pas. Non, ne regarde pas de ce côté-là. Et à un moment donné, elle craque. La convoitise est plus grande, elle regarde et immédiatement, elle se transforme en statue de pierre ou de sel. Et là, pétrifiée, la vie pétrifiée. Vous savez pourquoi? C'est parce que tout simplement, elle était, son corps était sur le chemin pour aller vers la délivrance et le secours, mais son âme était encore derrière. Faisons attention de ne pas laisser nos âmes se consumer dans toutes sortes de choses et qui vont nous tuer. Oui, qui vont nous faire mourir. Et ça, c'est ça, hein. Il faut faire attention. À cause de nos rigidités, à cause de nos cultures, à cause de, finalement, nos traditions. C'était l'histoire des pharisiens qui ont crucifié Jésus parce que Jésus leur dit « Maintenant, je suis venu vous apporter un message nouveau. Ce n'est plus la loi, c'est la foi et la grâce. » Ils n'ont jamais voulu, hein. Ils étaient tellement enfermés dans les portes du temple, dans les portes de leur synagogue. Ils y sont encore, hein, aujourd'hui, hein. Ils y sont encore. Et nous voyons que, ben voilà, sur le plan relationnel et d'une autre façon, eh bien, ils étaient prisonniers. Hein. Osez l'ouverture, mes frères et sœurs, oui, et les fraîcheurs divines de tout ce que nous apporte la parole de Dieu, la vie du Saint-Esprit. Être prêt à accepter de changer, c'est être prêt à grandir, non plus devenir des enfants, ni des adolescents, mais vraiment des hommes faits en Jésus-Christ, des hommes mûrs. Et c'est s'adapter, mes frères. Et l'église de Redon doit s'adapter à une nouvelle façon de faire. Parce que des Alain, il y en a eu, c'est fini. Maintenant, il va y avoir un roi David. Hein. Je ne vous souhaite pas Salomon. Hein. Parce que là, il va y avoir du monde. Voilà. Alors, s'adapter. Souvenons-nous de la parabole que Jésus nous donne, les vieilles outres et les outres neuves. Et Jésus dira d'une manière très claire, on ne met pas finalement eh bien, du vin nouveau dans de vieilles outres, parce que le vin nouveau est tellement pétillant, il est tellement explosif qu'il va faire, éclater les vieilles outres, parce qu'elles ne sont plus en état de pouvoir soutenir. Alors ne restons pas finalement là-dessus. Dernier appel, mes frères et sœurs, persévérance au cœur même de la tribulation et des tribulations de la vie que nous pouvons tous avoir les uns les autres. Et dans le livre, moi ça m'est arrivé hier matin quand j'étais en train de réfléchir, et j'ai eu cette pensée, il est dit ceci dans le livre des Hébreux, « Afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. » Mes frères et sœurs, j'ai parlé à votre âme, j'ai parlé à votre vie intérieure. Le Seigneur a parlé à votre vie avant que je le dise, je le répète moi tout simplement, « Afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. » Trouvez en Dieu des motivations de vous réjouir, de le bénir, de le remercier, de lire sa parole, non pas d'une manière formaliste, mais d'une manière où vous allez, c'est pas un devoir, mais ça va être un bonheur de lire sa parole, dans l'amour, dans les sentiments de l'amour. Ne vous lassez pas l'âme découragée. Alors se remettre debout, c'est ce que vous allez faire tout à l'heure physiquement. Hein. Emmenez pas les chaises. Bon. C'est de regarder, diriger les yeux, diriger vers le haut. Et quand il est dit, ayez les regards fixés sur Jésus. Il est là-haut, mais il est aussi au milieu de nous. Et alors, à l'image de notre modèle parfait, c'est-à-dire la personne de Jésus, tomber, se relever, avancer, sans perdre toute espérance, nous dit le prophète Jérémie, dans Lamentations, sans perdre toute espérance, gardez l'espérance vive et que Dieu vous bénisse.
Amen. Amen.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que le chemin de l'homme sur la terre, et je dirais peut-être le chemin particulier du chrétien, chrétien de l'Évangile, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, vivant la foi dans la personne unique de Jésus, eh bien Seigneur, c'est vrai que nous pouvons tomber, mais tu nous demandes de nous relever avec les forces que tu communiques, comme cette femme qui était courbée depuis 18 ans et que Satan tenait liée. Et puis, nous devons aller de l'avant. Nous devons toujours avancer parce que nous savons, Seigneur, que ce n'est pas nous qui marchons en pur hasard, mais c'est toi qui es notre lumière. Tu nous éclaires devant. La parole de Dieu est une lumière sur nos pas, sur notre sentier. Jésus-Christ est la lumière, comme la lampe qui éclaire sur une montagne, qui éclaire tout. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Bénis mes frères, mes amis, ce matin. Et peut-être pour celui qui a besoin de consolation, celui qui a besoin d'un souffle, nouveau, eh bien je te demande de le visiter maintenant. Oui, Seigneur, nous n'avons pas besoin de faire de la démonstration, mais nous croyons que c'est dans notre cœur que nous pouvons te dire, mais Seigneur, tu crées en moi un cœur pur et un esprit bien disposé pour véritablement marcher avec toi, parce que je ne suis pas seul. Tu es près de moi et tu es en moi, Jésus. Amen.
Amen.